Histoire de France et d'ailleurs avec René-Joseph Irmana, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui intitulée « Propos à bâton rompu, papillonnage tous azimuts ».
Bonjour, donc aujourd'hui ce sera une émission un peu multiforme avec divers objets un petit peu incongrus, j'avais parlé de jardin de curé, enfin, un mélange, une espèce de pot pourri, de patchwork, voilà. Parce que je me suis inspiré de divers sujets aussi d'actualité et aussi un petit survol sur les précédentes émissions. Parce qu'au mois de juin dernier, on avait fait un survol sur les émissions de l'année 2022-2023. Donc on a le premier trimestre scolaire, si on peut dire, 2023-2024. On peut faire un petit survol, rétroactif. Donc, je voudrais aussi évoquer les émissions futures, ce qu'on pourra proposer hein, au cours de l'année, au cours de 2024, bon, jusqu'au mois de juin, on va dire. Et certains points que je voulais souligner, qui sont liés aussi à l'actualité, par exemple. Alors, d'abord, lors de l'émission du 9 janvier, consacré à Olympe de Gouges, je vous avais annoncé, je voulais lire un petit extrait de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà. Et puis alors mardi dernier, c'était le mardi 16, donc il n'y a pas eu d'enregistrement, et donc on a diffusé une précédente émission, enfin une émission qui avait été enregistrée à cet effet et qui n'avait pas été diffusée le mardi. Donc c'était l'émission que vous avez entendue sur le complot de l'œillet ou la véritable histoire du chevalier de Maison Rouge. Hein, voilà. Donc je reprends aujourd'hui, si vous voulez, la suite de l'émission du mardi 9. Comme annoncé, je vais vous donner quelques extraits très sommaires de cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, la première féministe, qui est montée à l'échafaud le 2 novembre 1793, hein, voilà, au moment de la Grande Terreur. On avait décrit sa mort héroïque, etc. Donc, et ensuite, je ferai un petit survol, comme je l'ai annoncé, sur certains points. Alors, par exemple, je voudrais vous parler à propos de l'émission qui va, enfin que dis-je, du projet de loi qui va être soumis au Parlement au mois de février, annoncé sur la fin de vie. Je voudrais faire une petite évocation sur l'euthanasie, mais juste un avant-propos, parce que je pense qu'on fera une émission plus détaillée, voire plusieurs sur le sujet de très prégnant et très... Moi, j'ai une opinion très forte, très forgée sur le sujet. Je suis pour, totalement pour l'euthanasie, mais bon, donc ça demande à être un peu étayé, évoqué, discuté. Je ferai un petit avant-propos aujourd'hui, et j'évoquerai notamment la mort, par exemple, de Monterland, la mort choisie, le suicide volontaire de un des géants des lettres, Monterland. Hein, voilà. Donc. Et puis, je vous parlerai alors de façon un peu plus drôle peut-être, ou sympathique. On avait parlé, mais là, c'est, alors, remonte à juin dernier, on avait fait une émission sur le Mont-Saint-Michel. Et là, l'histoire du Mont-Saint-Michel, il y a une petite histoire en parallèle, délicieuse, je voudrais vous raconter, sur l'affaire de l'omelette de la mère Poulard, qui illustre aussi de façon sympathique le Mont-Saint-Michel. Je vous ferai un petit propos là-dessus. Voilà. Et puis je voudrais aussi, mais ça sera dans les sujets futurs, j'avais déjà fait dans le passé des émissions sur les vieillards, ce que j'avais appelé les vieillards prodiges. Voilà. Donc des exemples de litanie de personnes, de vieillards qui avaient réussi à un âge avancé dans la politique, dans les arts, dans les acteurs, etc. Des exemples illustratifs. Et donc, je reviendrai un peu sur ce thème, je l'évoquerai, mais on y reviendra donc l'année prochaine. Et puis alors là, toujours aussi, présente émission, les anniversaires. On avait fait jadis une émission sur l'abbé Pierre, mais là, on célèbre l'anniversaire, le 70e anniversaire, février 1954, de son fameux appel, hein, Insurrection de la Bonté, hein, où il lance un appel qui a été suivi... d'une ça a été un succès fou, je veux dire, le dévouement, la générosité a été déclenchée par sa parole, par sa présence, son charisme. Et bien c'est là qu'on a l'abbé Pierre a surgi, et on découvre aussi un film est sorti récemment, c'est un anniversaire et actualité, un film dont on vous passera un extrait, la bande-annonce. Il y avait eu Hiver 54 qui était sorti en 1989 avec Lambert Wilson, un superbe aussi. Mais on vous passera la bande-annonce du présent qui est sorti au mois de novembre. Je ne sais pas si ça a eu un grand succès, de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne, et qui peut-être est moins il est un peu iconoclaste peut-être, mais je ne l'ai pas vu, donc il faudra, j'espère le voir, mais au moins à la télé, quoi. Et sinon, si c'est trop tard en salle, et donc qui peut-être donne une vision plus, moins idéalisée, mais plus vivante, enfin, de l'abbé Pierre, hein, avec sa dimension qui était peu développée dans le film Hiver 54, par exemple l'ancien résistant. Voilà. Et puis il était aumônier des maquis du Vercors, de mémoire. Je crois qu'il avait, même sur ses épaules, il avait fait traverser les Alpes vers la Suisse. Il avait évacué un frère du général de Gaulle, l'un des frères du général de Gaulle, qui était très handicapé, qui ne pouvait pas marcher. Voilà. Donc, c'est des aspects de sa personnalité, puis bien sûr ses déclarations tonitruantes, qui font qu'il ne sera jamais béatifié, parce que, à l'évidence, son dossier n'est même pas déposé, parce qu'il est hors norme. Hein, voilà. Donc, on va faire un peu, on a un petit tour divers et variés, je vous dis, c'est un peu, peut-être un peu confus, mais bon. Donc je vais vous lire comme annoncé, eh bien, quelques extraits de cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, 1791, est un peu sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais qui la féminise et qui souligne les droits particuliers de la femme. Alors juste le préambule: les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en assemblée nationale. Voilà. Alors c'est toujours dans, il y a un postambule aussi qui est très vigoureux. Réveillez-vous, femme, enfin. Et donc, elle évoque la considérant l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de la femme étant les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Voilà. Et donc, sommes résolus d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels et inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, etc., présente à tous les membres du corps social leur rappel sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Mais les droits, les devoirs aussi sont déclarés. Alors, juste article 1er, la femme n'est libre, elle naît et n'a été libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Voilà. Donc, le principe de toute souveraineté, mais ça c'est des données générales qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui inclut d'ailleurs, on peut supposer, la femme, quoi. C'est l'homme au sens large, hein, c'est pas le viris au sens latin, c'est, je sais pas, homo hominis, l'homme qui inclut la femme. Donc article 3, le principe de toute souveraineté réside dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Donc pas de dictature, pas d'oligarchie. Bon, alors les lois de la nature, article 5 et de la raison, défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par les lois sages et divines ne peut être empêché. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc là, c'est des données générales. Article 7, nulle femme n'est exceptée. Donc ça veut dire que elle est accusée, arrêtée, retenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes n'obéissent, comme les hommes, à cette loi rigoureuse. Donc, alors on pourra citer aussi pour finir, parce que il y a plus de 15 articles, il y en a, donc on ne va pas tout lire. C'était juste un post-it qu'on fait. Alors on peut citer l'article 10, toute femme alors, étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Donc elle a les mêmes droits, elle n'a pas de privilèges. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud et là, le devoir et le droit, plutôt également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public. Alors c'est le tressaillant, ce qu'on a retenu. La femme a le droit de monter à l'échafaud, dans le contexte de l'époque, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, de s'exprimer. Hein, voilà. Donc, on va en terminer là, parce qu'après ça serait une étude trop détaillée, quoi. Alors, ce que je voulais vous parler aussi, je vais vous parler de la bonne mort. On fera une émission, mais juste un prélude à ce dont on va parler, puisqu'il y aura cette loi de février qui va passer, déposée au Parlement, qui suscite déjà beaucoup de polémiques. On ne sait pas pourquoi, alors que ça devrait être apaisé, ce genre de débat, comme a pu l'être le débat sur l'avortement en 1974 avec Simone Veil sur l'IVG. Il y a beaucoup d'analogies d'ailleurs entre les deux. Alors, à propos de la bonne mort, on reviendra. Actuellement, c'est la loi Leonetti qui s'applique du 22 avril 2005, prévoit des directives anticipées, une sorte de testament de vie par lequel on décide, voilà, chacun peut décider quand mettre fin. Pas mettre fin, c'est pas actif, je vais pas éplucher dans le détail, mais le principe de la loi Leonetti, c'est de laisser mourir, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique. Alors que la loi actuelle, le projet de loi qui sera déposé, alors je n'ai plus le nom de la ministre chargée de, je sais plus son portefeuille, elle n'est pas très connue, mais peut-être des personnes âgées, enfin, donc, qui sera, ou de la santé tout simplement, ça sera là une aide active potentielle. On a parlé de suicide assisté, je pense que, in fine, la possibilité, ça sera que la personne a la possibilité, elle aura les deux pilules par exemple, et pourra les absorber, hein, voilà, et on lui les mettra à portée, voilà. Elle se suicidera elle-même, voire on pourra l'aider, soit un proche, soit un soignant, voilà, pour finir, à sa demande expresse, hein, voilà. Donc on ne comprend pas en quoi ça choque, et puis je pense que on met trop les soignants là en exergue, alors que c'est un problème de citoyen, c'est un problème de chacun choisit, et puis voilà, c'est pas un problème à mon sens de soignant, sauf la clause de conscience qui existe pour l'avortement. Un médecin n'est pas obligé de procéder à un avortement, et donc il peut, si sa conscience lui interdit, s'interdire de le faire, il n'est pas d'obligation, voilà. Et alors je citerai, alors je, sur cette bonne mort, alors on remonte, on élève le débat, là c'était sur l'actualité, on en reparlera à l'époque, en février, hein, il y avait donc cette notion, le projet de loi qui va venir pourra finir avec l'actualité, il développera les soins palliatifs, mais je pense que c'était évoqué dans la loi comme en contrepoint, la loi Leonetti, voilà. Mais il faut dire que les soignants qui sont contre, dit-on en majorité, je suis un peu peut-être un brut de dire ça, je crois que c'est plutôt pour maintenir des emplois, pour maintenir des services, hein, voilà. C'est pas forcément pour une autre humanité. D'ailleurs, quand la personne est concernée, soignant ou pas, pour un membre de sa famille ou pour soi-même, eh bien, on change d'opinion après. On a eu d'ailleurs cet exemple qui a été cité lors d'un débat que j'ai suivi à je sais plus sur quelle chaîne. Julien Bugier, sur peut-être la 2, et donc c'était, il y avait d'ailleurs Jean-Luc Romero, qui était animateur, il ne l'est plus, je crois, président de la DMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, et il a cité, je l'ai trouvé sur Internet, une ministre, alors du temps de Jospin, Paulette Guichard. Elle est peu connue, elle était secrétaire d'État aux personnes âgées, et c'était le propos de Romero. Elle manifestait contre le suicide assisté, elle manifestait contre ce droit de mourir dans la dignité, voilà. Peut-être pour des options, je sais pas, religieuses. Et conclusion, elle a eu une grave maladie, et elle a été se faire euthanasier en Suisse, voilà. Mais elle s'est excusée, semble-t-il, pour son attitude passée. Voilà. C'était Paulette Guichard, elle était secrétaire d'État aux personnes âgées. Et donc elle est morte en Suisse, comme Jean-Luc Godard et d'autres, en mars 2021, après avoir été contre. Hein, voilà. Et alors on peut citer, j'y reviendrai un peu, là je vais revenir sur l'histoire. J'ai trouvé un numéro, enfin un article. Au Moyen-Âge, on parlait de bonne mort. Hein, et alors c'était la bonne mort, c'était la préparation chrétienne. C'est-à-dire il fallait avoir bien les derniers sacrements, l'extrême onction, une confession totale de toute sa vie. Et sinon, si on n'avait pas le temps de le faire, mort subite par exemple, on parlait de mal mort, hein, ou si on ne se repentait pas. On a parlé aussi, c'est une expression ars moriendi, un peu l'art de mourir. Hein. Alors par contre, Erasme, l'humaniste, déclarait celui qui a bien vécu ne peut avoir une mauvaise mort. Là, c'est, on peut contester hein, le propos. Hein. Et je pense qu'on pourrait dire que le bien mourir, le bien vieillir et le bien mourir, eh bien, la vie est sauvée. C'est rétroactif, hein, ça sauve une vie. Alors, à la Renaissance, on parle Pétrarque, le grand auteur de la Renaissance. Alors là, je voulais vérifier, je confonds toujours avec Plutarque. Alors, c'est Pétrarque, je pense qu'il est du 15e, 16e siècle. Je rectifierai si j'ai dit une bêtise. Et donc, il déclare, lui, une belle mort odore toute une vie. Il s'agit de laisser une mémoire, un peu sa statue, dans la sa statue morale, dans la mémoire des générations futures. Hein. Alors la réforme, Luther-Calvin, donne une autre approche, enfin, conteste surtout l'attitude de l'Église. On sait qu'il y avait les indulgences dans l'Église, qui, le scandale, poussé jusqu'au scandale, qui a été aussi un élément, un catalyseur de la réforme, de la révolte de Luther hein, et du schisme protestant. Parce que l'Église vendait à tour de bras des indulgences. Ouais, pour gagner le paradis, il fallait payer, on avait un passeport pour l'éternité, voilà. Indulgence plénière, partielle, suivant les montants, quoi. Voilà. Et donc, il conteste, bien sûr, ces indulgences, et il donne la primauté à la foi, le croire et à la parole aussi, là, et à la Bible, au texte, et à la foi. Et les rituels sont de moindre importance pour le protestant. Hein. Voilà. Au XVIe et XVIIe siècle, alors c'est les gentilshommes, ça c'est. La mort, c'est la mort au combat, en duel ou à la guerre. Là, c'est ça, la belle mort, surtout pas dans son lit. Voilà. Au 19e siècle, alors, déjà au 18e, on avait déjà le siècle des Lumières, hein. Voltaire, Diderot, etc. La sécularisation, l'aspect religieux se réduit au niveau de la mort. Hein, voilà. Et au 19e siècle, jusque dans les années 50 encore, après il y avait ce culte du deuil, ce noir, les femmes en voient le noir longtemps après, souvent le décès. Hein. Alors pour les reines, c'était le blanc, je ne dis pas de bêtises. Et il y avait aussi, je voulais évoquer ça, je voulais en parler, mais c'est un peu une petite anecdote, je vais pas, il y a ce mariage posthume, vous savez, qui a existé, même en période contemporaine. Je sais même que j'avais travaillé jadis dans un service d'état civil et je sais qu'il y avait une collègue qui avait assisté enfin, à un mariage posthume. Hein. Là, c'était peut-être dans le cadre d'un homme qui était décédé à l'armée. Voilà. D'ailleurs, c'était très émouvant, très poignant, hein, puisque là, l'un des deux époux n'est pas là. Quoi. Voilà. On épouse un mort, hein. Peut-être aussi pour des raisons plus pragmatique, hein, il ne faut pas non plus pour toucher une pension peut-être, tout simplement, enfin avoir, mais ça peut être aussi donner le nom à un enfant, si la femme est enceinte, etc. Voilà. Les motifs sont mêlés, peut-être aussi très nobles. Voilà. Et donc, au 19e siècle, notamment, et puis la belle-mère, c'est la fin paisible, entourée de sa famille. Hein. Et au 20e siècle, c'est la médicalisation, le développement des soins palliatifs, mais je veux évoquer cette émission tout à l'heure. C'est pas parfait, paraît-il. Il paraît que c'est pas. Hein, on peut y souffrir aussi, semble-t-il. Donc, on parle aujourd'hui plutôt de la fin de vie plutôt que de la bonne mort. Et moi, je trouve que l'idée de bonne mort était bienvenue. Hein, voilà. La mort, c'est en soi une démarche, un passage. Hein, voilà. Et donc, je pense que, moi, c'est mon opinion, j'y reviendrai. La vie nous appartient, on peut la donner. D'ailleurs, on dit donner sa vie pour ce qu'on aime, pour la patrie. Donc, la vie nous appartient, point barre. Hein. On n'a pas à demander à consulter X personnes. On fait un choix, point barre. Et donc, je vous lirai. Alors, aussi, peut-être, si j'ai le temps, une citation de Bossuet. Je l'avais fait à propos de la mort d'Henriette d'Angleterre, quoi. Mais c'est une. Je vous la lirai après si je la trouve, parce que je l'ai mis de côté. C'est à propos toujours d'Henriette, mais la mère d'Henriette d'Angleterre, là, qui était la sœur de Louis XIII, voilà, qui avait épousé Charles Ier, on en avait parlé. Charles Ier exécuté lors d'une révolution, et Henriette s'était réfugiée en France auprès de son frère Louis XIII. C'était la tante de Louis XIV. Et c'est l'oraison de Bossuet. Il a fait l'oraison de la mère et un an plus tard de la fille. Hein. Madame se meurt, madame est morte, c'était la fille. Alors là, je veux écrire ici Monterland, mais je ferai la lecture peut-être une autre fois, le passage de Bossuet, si je peux y mettre la main dessus. Quoi. Voilà. Donc. Monterland est mort le 21 septembre 1972 et donc à 76 ans, il s'est suicidé parce que il était menacé de cécité et donc il a choisi la mort, une mort brutale d'ailleurs. Hein. Et puis deux pistolets et deux pilules de cyanure. Voilà, il a un double instrument violent, un peu comme les Hitler, enfin, bien qu'il n'y ait pas de comparaison, mais cyanure. Épistolé, voilà. Et il redoutait le gâtisme. Il avait été le témoin du gâtisme de certains de ses confrères, comme Jules Romain ou Georges Duhamel. Et donc, il n'en voulait pas pour lui. Il ne voulait pas être dépendant. Et donc, il a choisi. D'ailleurs, c'était le jour de l'équinoxe, le dernier jour de l'été, 21 septembre. 1972, ça avait un sens, hein, voilà. Donc, et il avait anticipé, d'ailleurs dans son œuvre, il y avait une annonce un peu, par exemple, c'était le chaos et la nuit en 1963, donc il y a un personnage annonce ce suicide aussi, voilà, c'est son choix. Hein. Donc, on en a parlé beaucoup à l'époque et ça a été très débattu, contesté, ça a fait donner lieu à la polémique. Hein, voilà. Alors on est en hommage de Gaulle, de Pompidou, par exemple l'hommage de Gaulle à Monterland, qui n'était pas croyant mais qui était au bord de la croyance. Hein. C'est la citation du général, alors longeant infiniment le bord de l'océan, religieux, que son génie ne quitte jamais, mais sans franchir le pas. Hein. C'est une lettre de De Gaulle de février 1969, et déclaration de Monterland, paraît dans une lettre de 26 août, peu avant sa mort, donc la veille, 25 août, ou un mois avant, on dit qu'il est tourmenté par la foi, mais sans pouvoir l'éprouver. Moi qui ne crois pas, je crois. Je ne crois que ceux qui croient. Donc il croit à celui qui croit. Et cependant, je ne puis comprendre qu'il croit. Voilà. Il a un tourment par rapport à la foi. C'est aussi une mort de vieux Romain. On l'a dit qu'il veut échapper à la vieillesse. Voilà. La mort de Caton. Voilà, il y a cette dimension-là. Et ses cendres sont dispersées le 21 septembre 1973 à Rome par un personnage là qui a depuis senti le souffre, Gabriel Matzneff, hein, qui était un de ses disciples, un de ses jeunes disciples, et par le fils de Marguerite Loz, qui était une vieille amie. Voilà. Donc, ça, c'est cette mort de Monterland. Et puis, on peut citer aussi d'autres exemples qui ont fait la une de l'actualité. Alors récemment, par exemple, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, il y a une demande de Françoise Hardy qui était gravement malade et qui a fait une lettre au président qui a été rendu public, qu'on l'aide à mourir. Voilà, Françoise Hardy, c'est 80 ans. On imagine ces personnalités. Je sais pas, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Johnny Hallyday est parti, mais ils étaient tellement le symbole de la jeunesse. Elle demande qu'on l'aide à partir. Et on sait que Lynn Renault était un peu le symbole, la marraine, elle s'était occupée du sida. Et elle est un peu à 95 ans, elle a fait ce choix. Hein. Elle demandait toute son influence, elle est côté people, mais bon, pour que bien, on ait le droit de choisir. Hein. Deux pilules, et puis c'est bon. Ouais. Alors, on peut citer aussi parmi ceux qui sont partis, j'ai cité Monterland. Il y a eu par exemple dans le temps d'autres Dalida par exemple, Jacqueline Huet aussi, une ancienne speakerine, hein, une ancienne présentatrice de la télé des années 60-70, voilà, qui s'était suicidée. Et alors dans les affaires qui ont fait la une, il y a eu Vincent Lambert. Vous savez, il y avait un conflit familial et finalement on l'a débranché, si on peut dire. Il était né en 76, il y a eu un grave accident qu'il avait laissé paraplégique, enfin plus que paraplégique. Il était comme un légume, il ne pouvait pas bouger, pas parler. Un accident en 2008, et il a été... on a mis fin à sa vie, on l'a débranché, si on peut dire, le 11 juillet 2019, et je crois qu'il avait pu formuler quand même sa demande par les techniques actuelles, par un petit peu le regard, le toucher. Il avait pu exprimer sa volonté qu'on mette fin, qu'on l'arrête, hein. Qu'on le libère, si on peut dire. Et puis, c'était presque un homonyme, c'était l'affaire Vincent Humbert et sa mère Marie Humbert. Alors, on a dit qu'elle l'avait euthanasié. Lui aussi, c'était un jeune pompier de 19 ans, né en 1981, grave accident le 24 septembre 2000, voilà, et qui est paralysé. Il est là aussi comme un légume. Et là, c'est sa mère. On l'a dit à tort qu'il aide, elle fait une tentative, mais elle n'est pas la bonne dose, si vous voulez, dans la perfusion, elle n'est pas la dose suffisante. Et donc finalement, c'est le docteur Chaussois. Il y a eu une tentative le 24 septembre 2003, et c'est le docteur, le médecin, avec tous les risques, on imagine, hein, professionnel, de prison, etc., parce que c'est un professionnel, c'est lui, elle l'appelle au secours. Le 26 septembre, et il lui donne la mort, voilà. Enfin, il est euthanasié, et c'était sa volonté. Mais ils sont acquittés, les deux, hein. Elle est morte aujourd'hui, sa mère. Elle militait aussi pour le droit de mourir dans la dignité. Et les deux sont acquittés, hein, y compris le docteur Chaussois, voilà. Donc on a parlé de cette loi, je vais parler de cette personnalité, Paulette Guichard, qui était une secrétaire d'État aux personnes âgées sous Lionel Jospin, qui était contre, et puis qui, pour elle-même... On a vu aussi Jean-Luc Godard, récemment, qui est mort en Suisse. Et il y avait la mère de Lionel Jospin, d'ailleurs, Paulette Guichard, avait prévenu Lionel Jospin, elle en avait parlé, et il avait approuvé, et il avait rappelé que lui-même, sa mère, Mireille, qui était une ancienne sage-femme, qui était passionnée par son métier toute sa vie, pour donner la vie, et qui elle aussi était atteinte d'une maladie et incurable. Mais bon, et on a vu d'ailleurs ce reportage, la mère de Lionel Jospin, qui s'appelait dans Dieu, enfin peu importe, dans Dieu épouse Jospin, et elle est morte à 92 ans. Alors il y a eu une période de 6 mois, elle avait préparé la date, le jour, l'heure. Et elle était suivie par sa fille, la sœur de Lionel Jospin, Noël Châtelet, hein, une romancière assez connue, qui a d'ailleurs mis cette expérience poignante en livre, La dernière leçon, de sa mère. Et j'avais vu, il y avait un reportage à la télé, je me souviens, où il y avait, on suivait, enfin, c'est tout simple, une période de 6 mois où elle préparait son départ jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on y reviendra puisque le débat, en France, on aime les polémiques et il y aura sûrement des polémiques à ce sujet. Voilà. Donc, je vais. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Oh là, j'en ai parlé. Ça passe un peu du coq à l'âne, si je puis dire, et aux antipodes, mais des petites. anecdotes charmantes. Je vais parler du Mont-Saint-Michel et en accessoire, c'était notre émission de juin, vous savez, cette fameuse omelette de la mer Poulard. Et d'ailleurs, on trouve ça dans les mêmes revues, si vous voulez. Vous avez la mort de Monterland, l'omelette de la mer Poulard. Il y a un mélange adorable, je veux dire, c'est ce qui fait que, voilà, on rit, on pleure, voilà. Donc, cette omelette de la mer Poulard, ça c'est joyeux, c'était le plat de gloire de l'aubergiste qui, en 1873, Annette Boudreau, épouse Victor Poulard. Elle a 21 ans, il en a 21, il est boulanger, il en a 24. Bon, et alors elle était la servante, elle travaillait chez Édouard Corroy, qui était architecte des bâtiments de France, on est en 1871, et qui était chargé de la restauration du Mont-Saint-Michel. Alors il s'installe avec sa famille dans le cadre de sa mission au Mont, hein, pour étudier la restauration de l'abbaye, et elle suit, Annette suit, et elle fait la rencontre, mais je pense que peut-être c'était déjà à Paris, de son fiancé, donc Victor, et donc ils vont se marier d'ailleurs à Paris, en janvier 1873, à l'église de Saint-Philippe de Roule, voilà. Et donc, ils vont s'installer au Mont, sur le Mont, et ils ont un bail, un bail commercial, le Saint-Michel Tête d'Or. C'est l'une des trois auberges du site. Et là, c'est là qu'elle va mettre au point. D'ailleurs, l'omelette, la fameuse omelette, masque un peu, je pense qu'il y avait d'autres produits, d'autres qualités. La table était de bonne qualité. Alors, on parle des mers, il y avait ces mers lyonnaises aussi, voilà. Mais l'omelette un peu absorbait le reste. Hein. Donc, on s'est focalisé là-dessus, voilà. Et donc, on n'aura jamais son secret. Parce que l'avantage, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le pont. Aujourd'hui, le pont, de nouveau, a été supprimé. C'est de nouveau l'île qui est restaurée. Mais c'était avant même le pont. Et donc, les pèlerins et voyageurs, visiteurs venaient à marée basse, donc. Et on les captait, si vous voulez. Les trois aubergistes faisaient la concurrence. Il y avait des goglans, ce qu'on appelait des goglans, qui étaient un peu des rabatteurs ou des patages, voilà. Qui attendaient les visiteurs au pied du mont, essayaient de les rabattre vers telle ou telle auberge, voilà. Y compris donc l'auberge de Saint-Michel Tête d'Or, des époux Poulard, voilà. C'était le feu de bois. C'est un peu, je vous lirai un peu le secret, a-t-il été percé ou pas. Ça se faisait en direct, c'était l'avantage de l'omelette, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Et par la suite, il y a eu un cuisinier, le Désart, D-E-Z-A-R-T, voilà. C'était son chef cuisinier, ça a pris de l'extension. Et donc il y avait cette concurrence, alors il y a eu des anecdotes étranges, enfin, on ne rentre pas dans cette polémique, entre les deux frères, le frère cadet de Victor, lui, qui s'appelait Alphonse, lui aussi s'était installé au Mont. Alors il y a une concurrence entre les deux, et notamment dans les enseignes. Alors Alphonse avait inscrit ici, sur son enseigne, la véritable omelette. Et Victor et Annette avaient répondu, ne pas confondre ici hôtel Poulard, rien de commun, Poulard aîné, rien de commun avec Poulard cadet, malgré le même nom. Donc ils se font là un peu la concurrence, et puis finalement c'est Alphonse, c'est le cadet, qui, alors je ne sais pas s'il y a procès ou quoi qu'il en soit, c'est lui qui va remporter la mise, si on peut dire, contre son frère et sa belle-sœur. Il va s'installer finalement à l'hôtel où est-ce qu'il y a un accord, Saint-Michel Tête d'Or, et Victor et Anna et Annette sont exilés, si on peut dire, à 200 mètres, et ils vont recréer l'hôtel Poulard. Voilà. À la renommée de l'omelette, voilà, Poulard aîné, donc. Et Alphonse va répliquer, c'est ce jeu des enseignes, à la renommée de l'omelette, voilà, omelette soufflée, voilà. Et donc, on ne rentre pas dans ces péripéties. Donc, Honnête et Victor prennent leur retraite en 1904. Et in fine, c'est une société hôtelière, centre de tourisme automobile, qui réunit les deux établissements Poulard sous un seul nom, Hôtel Saint-Michel, Tête d'Or. Voilà. Honnête et Victor donc, prennent leur retraite sur le Mont. Dans le haut du village, une belle villa, ils ont fait fortune. C'est de ces réussites qui surgit au milieu du 19e siècle, plutôt du Second Empire, hein. Le bon marché, et même à Lourdes, je ne sais pas si vous aviez. J'avais vu une émission sur le sujet. Après Lourdes, c'était en 1858, c'était une nièce de Bernadette et un neveu qui était meunier et qui avait fait une belle fortune, parce que c'est d'ailleurs la nièce qui était la tête pensante du couple. Ils avaient créé un grand hôtel, peut-être de 1000 chambres, ensuite un deuxième, ils avaient fait vraiment une réussite dans l'hôtellerie avec le nom de Soubirous, et on se dit c'était les marchands du temple. Et puis finalement j'avais entendu, et c'était une vieille dame, l'hôtel a été transféré, d'ailleurs je crois qu'il y a toujours le nom Soubirous, et puis le nom du nouveau propriétaire. C'est grands hôtels, je répète, 1000 chambres, par emprunt, tout ça, il fallait avoir de l'audace. Et elle disait, on n'a pas été saint, mais disons qu'on s'est comporté honorablement, on a réussi à se comporter à peu près correctement dans la vie, et être de bons commerçants. Voilà, donc, finalement, bon, c'était pas des marchands du temple, ils ont fait leur métier honorablement, quoi, voilà. Alors, Honnête et Victor, pour revenir à eux, Poulard, eh bien, ils prennent leur retraite, je l'ai dit, au Mont-Saint-Michel, Villa l'Ermitage. Ils célèbrent leur noce d'or en 1923. Et Victor meurt le 10 octobre 1924 et Annette le 7 mai 1931, à 80 ans. Voilà. Et donc, il y avait eu cette polémique. Alors, je vais peut-être vous lire. Ça, parce que c'est, je trouve sympathique, c'est un grand chef qui était venu, qui avait assisté à l'opération, à la confection de l'omelette en direct, hein. C'est un grand chef, Alfred Suzanne, auteur gourmand de talent, collaborateur de l'art culinaire, chargé de percer le secret de l'omelette à l'insu de l'hôtesse. Alors il écrit, dans l'âtre d'une cheminée monumentale, comme on en voit fréquemment dans les fermes normandes ou bretonnes, est installé un trépied haut de 25 cm, sous lequel flambe un feu de brindilles de bois sec, dont la flamme s'élève en pétillant et vient envelopper les flancs d'une antique poêle de tôle, de laquelle émerge une queue longue et solide, tenue et guidée par la main experte d'un chef spécial, donc Monsieur le Désert. Le chef de l'auberge, d'Annette et Victor, qui n'a d'autre mission que de confectionner l'omelette traditionnelle. Alors, dans une large bassine, une centaine d'œufs sont cassés d'avance, assaisonnés et aromatisés d'après des données précises, puis mélangés avec environ 1,5 litre d'eau. Le tout est alors fouetté vigoureusement pendant 10 à 12 minutes. Au moment d'opérer, le chef puise dans la bassine avec un large cuiller à pot pouvant contenir une douzaine d'œufs, auxquels il ajoute un quart d'excellent beurre fondu. Il verse alors le mélange dans la poêle où frissonne encore le beurre. Et 3 minutes après, cuit à point, façonné à souhait et ayant revêtu cette agréable couleur dorée, légèrement gratinée, qui la rend si appétissante, l'omelette est renversée sur un plat et immédiatement servie. Voilà. Bon, il aurait percé le mystère, voilà, de l'omelette de la mère Poulard. Je pense que peut-être on peut en arriver à peu près à mi-temps de l'émission. On va passer donc le sujet que je vous ai annoncé, le film sur l'abbé Pierre qui est sorti au mois de novembre dernier. On vous passe la bande-annonce.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait.
Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés au front, résistant contre l'envahisseur.
Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature.
Ce que vous faites, c'est très bien. Mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider.
Merci, ma sœur.
Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ?
Va pour Abbé Pierre.
J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée.
Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien !
N'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon !
J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée.
On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi.
1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires ?
J'ai douté.
Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
J'ai désespéré.
Emmaüs, c'est fini.
C'est à nous de vous aider maintenant.
J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté ?
Vous vous rendez compte ? On a construit tout ça.
Voilà, c'était la bande-annonce du film sorti en novembre dernier sur l'Abbé Pierre, une vie de combat. On retrouve René-Joseph Irmana pour ses propos à bâton rompu.
Oui, donc avant de revenir à l'Abbé Pierre, puisque je répète, c'était l'actualité, enfin, le film est sorti au mois de novembre, c'est récent, et puis l'anniversaire. Le 70e anniversaire de son appel. Je vais vous en donner lecture. Là, je vais aussi. On avait fait une émission jadis sur l'abbé Pierre. Hein, voilà, et on avait illustré avec les extraits du film Hiver 54 avec Lambert Wilson. Je trouve superbe film aussi. Donc, mais je n'ai pas vu le récent. Donc, ça sera à voir. J'ai retrouvé enfin, le texte. On revient à la mort, à la bonne mort de Bossuet. L'oraison funèbre, alors qu'il prononce pour Henriette d'Angleterre, la mère d'Henriette, dont il fera également l'oraison funèbre, Henriette épouse de monsieur, frère cadet de Louis XIV. Là, il s'agit d'Henriette, la mère de cette dernière, hein, qui était la sœur de Louis XIII, hein, et donc épouse de Charles Ier. Qui a été exécutée suite à une révolution. Elle s'était réfugiée en France. Et donc, sœur de Louis XIII, tante de Louis XIV, tante de monsieur aussi, frère cadet de Louis XIV, et épouse de la fille. Sa fille épouse monsieur. Hein, fille, voilà. Et mais Bossuet célèbre les deux oraisons funèbres de la mère, et ensuite de la fille, qui ont le même prénom. Donc, hein, voilà. Donc. Jacques Bénigne Bossuet, 1627-1704, donc célèbre pour ses oraisons funèbres, il en a prononcé plusieurs, de Turenne, enfin, etc., hein, du Grand Condé, etc. Donc, en 1669, mort d'Henriette de France, tante de Louis XIV, ex-reine d'Angleterre, confrontée aux vicissitudes d'une révolution, elle avait été chassée par cette révolution qui avait amené Cromwell au pouvoir, hein, pendant. Une parenthèse de 5 ans. Et puis, c'est son fils, Charles II, qui reviendra au pouvoir, etc., Jacques II, etc. Ça sera le retour de la monarchie. Et donc, on cite Bossuet dans son oraison. C'était un genre littéraire à part entière, le sermon, quoi. Et donc, Elveillé, c'est un extrait passé très long, des oraisons funèbres, hein, très long, 60 pages peut-être, je ne sais plus. Donc, il dit « Elle veillait sans relâche sur sa conscience. Après tant de maux et tant de traverses, elle ne connut plus d'autres ennemis que ses péchés. Aucun ne lui sembla léger. Elle faisait un rigoureux examen et soigneuse de les expier par la pénitence et par les aumônes. Elle était si bien préparée que la mort n'a pu la surprendre, encore qu'elle soit venue sous l'apparence d'un sommeil. Donc là, c'est la douce mort, la bonne mort. Hein. Alors que sa fille, Henriette, on avait fait, je répète, c'était le 31 octobre, une émission sur elle, elle est morte. On avait suspecté un empoisonnement. Peut-être mort naturelle, mais elle est morte après une terrible agonie, la fille. Elle est morte, cette grande reine, dit Bossuet, et par sa mort, elle a laissé un regret éternel. Il y a beaucoup de points de suspension, je vous dis, ça fait peut-être 60 pages, enfin, c'est géant, ces sermons, ces oraisons funèbres. Ne plaignons plus ces disgrâces qui font maintenant sa félicité. C'est faute, quoi. Si elle avait été plus fortunée, c'est-à-dire plus heureuse, on sait qu'elle avait été chassée de son trône, réfugiée en France, et une vie un peu difficile. On lui payait pas sa pension, enfin voilà. Donc si elle avait été plus fortunée, son histoire serait plus pompeuse, mais ses œuvres seraient moins pleines, et avec des titres superbes, elle aurait peut-être paru vide devant Dieu. Maintenant qu'elle a préféré la croix au trône et qu'elle a mis ses malheurs au nombre des plus grandes grâces, elle recevra la consolation qui sont promises à ceux qui pleurent. Voilà. C'est toujours cette image un peu doloriste de l'époque. Voilà. Il faut souffrir, la souffrance est valorisée. Bon, c'était encore ça au 19e siècle. Alors je veux aussi, je vous vaguement, mais j'en ai pas parlé, c'est aussi dans l'actualité, je vais vous parler de la résurrection de Notre-Dame qui va être mise en service dans un an, donc je crois que ça sera le 7 décembre 2024, c'est ce qui a été annoncé, voilà, donc... je n'aurai pas le temps de développer, j'ai relevé plusieurs articles sur le sujet, voilà, on va simplement retenir ça, hein. C'est un dispositif géant, vu, le président Macron a visité le chantier le 8 décembre 23, et il y a un peu des situations un peu, peut-être pas conflictuelles, entre l'Église et l'État, parce qu'il y a plusieurs organismes, et on sait que c'est une cathédrale, une basilique, donc le bâtiment appartient à l'État depuis 1905, mais l'affectataire, le gestionnaire au quotidien, c'est l'Église. Et donc l'Église est chargée, le diocèse, de tout ce qui est intérieur, y compris l'éclairage, y compris le mobilier liturgique, y compris la gestion des flux, la gestion des visiteurs, des pèlerins, la sécurité, voilà. Donc, et la ville de Paris assure la sécurité extérieure. Et, voilà. Et donc la flèche a été achevée, elle est encore dans une gangue, hein, mais elle sera libérée. Donc elle sera couverte de plomb, hein. Donc le plomb est très élevé, c'est à 40 mètres de haut, donc ça n'impacte pas la santé des gens au sol, voilà. Et donc il y a cette flèche qui rétablit, comme au temps de Viollet-le-Duc, il y a la grande orgue qui avait été complètement démontée, hein, 8000 tuyaux, enfin, etc. Elle sera complètement reconstruite. Le mobilier liturgique, là, c'est le choix de l'Église. C'est l'artiste Sylvain Dubuisson qui avait fait une proposition retenue par l'archevêque de Paris, avec un choix de simplicité, de sobriété, autel, baptistère, ambon, etc. Tabernacle, hein, voilà. Même les chaises, enfin, sont choisies, enfin, voilà. Et c'est Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, qui a fait ce choix avec une vision spirituelle, mais en excluant tout décorum, voilà. Et les aménagements, etc. La gestion de l'activité sera aussi modifiée avec des circuits de pèlerins, voilà, la modification des chapelles, il y aura quand même quelques vitraux modernes, figuratifs, qui seront installés, et des tapisseries modernes aussi, hein, dans les chapelles respectivement, nord et sud, voilà. Et le parvis et les abords, la propriété de la ville de Paris, sont là du domaine de la ville de Paris, finalisé en 2025, voilà. Donc, je crois qu'on est près de la fin, il reste encore 10 minutes, Je voulais vous le lire, mais là aussi, je me suis laissé surprendre. Alors, je vous demande un petit instant, puisqu'on est dans les lectures. Je vais vous lire l'appel de l'abbé Pierre, hein, puisqu'on avait cette émission. Je pense qu'il est bon de terminer sur cette belle figure, hein, de l'abbé Pierre. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. On a eu Sœur Emmanuelle. Bon, il y avait Mère Teresa. Sœur Emmanuelle était française et plus présente aussi. Hein. C'était une personnalité au fort charisme, hein, un peu comme l'abbé Pierre. Et puis un personnage moins connu, Guy Gilbert, qui est aujourd'hui, il a écrit d'ailleurs sur la vieillesse aussi, il est très âgé, il a 86 ans, et il a écrit des livres, des livres tout simples, et son association pour les délinquants, pour les jeunes des rues, on l'appelait le prêtre des Loubards, il vivait par ses livres, il demandait pas l'aumône, hein, voilà, c'était le fruit, les royalties de ses bouquins, qui payait son assoce, une ferme notamment, où les jeunes sont mis en présence, il y a des animaux, enfin voilà, ça fait partie de l'éducation. Et il est très âgé aujourd'hui, 86 ans, il a écrit un livre d'ailleurs sur la vieillesse, le miracle de la vieillesse, ou je ne sais plus, donc il va à le lire aussi je pense. Alors, au sujet de l'abbé Pierre, son appel du 1er février 1954, dont on va célébrer l'anniversaire. « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Et précédemment, il y avait un enfant, un bébé qui était mort gelé, le père était venu frapper à sa porte, voilà. Dans la cité Neuilly-Plaisance, et là, à nouveau, un mort, qui fait l'objet de son discours vibrant, prononcé sur Radio Luxembourg, hein, le 1er février 1954. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sur le gel, sans pain, plus d'un presque nu. Écoutez-moi, deux centres de dépannage viennent de se créer. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accroche sous une lumière dans la nuit à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe et où l'on lise « Centre fraternel de dépannage, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, on t'aime. » La météo vient d'annoncer un mois de gelée terrible. Devant leurs frères mourants de misère, une seule volonté doit exister, rendre impossible que cela dure. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Il nous faut, pour ce soir et au plus tard, pour demain, 5000 couvertures, 300 grandes tentes américaines, 200 poêles catalytiques. Disposez-les vite à l'hôtel Rochester, rue de la Boétie. Rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage des couches dehors. Ce soir, à 23h, devant la tente de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte, sur les quais de Paris. Voilà, c'est un extrait de l'appel de l'abbé Pierre. Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que on pourrait peut-être en finir là. Il reste encore 5 minutes. Bon, alors, cet appel avait été appelé l'insurrection de la bonté. Alors, l'abbé Pierre avait créé, il a été résistant, c'est évoqué dans la bande-annonce là, du film récent, dans le Maquis du Vercors, il a eu un dessin extraordinaire. Donc, il a fondé les Chiffonniers d'Emmaüs en 1949. Donc, c'est cet hiver 53-54, très froid, moins 20 degrés à Paris, moins 30 à la campagne. Alors il y a des dizaines de milliers de sans-abri, on est encore à la sortie de la guerre, de tous âges, hein, et des gens qui travaillent mais qui peuvent pas se payer un logement. Il y a des campements sauvages partout, voilà. Et donc il a créé un début, un centre, le centre d'Écoclico à Neuilly-Présence à l'aide de Paris, hein. Et donc c'est Henri Rouest, c'est son vrai nom, et Pierre c'est son nom de résistant, hein, voilà. Et il avait vu le soutien de Léo Hamon, C'est évoqué dans la bande-annonce, qui était un député ami, Léo Hamon connu, qui Léo Hamon le qualifiait de Monsieur Vincent avec un micro. Et donc il avait déposé, Léo Hamon, sur l'impulsion de l'abbé Pierre, un projet de loi d'urgence. Il y avait un projet de loi de création d'HLM avec débloqué immédiatement des blocages d'un milliard de francs. Avec 3000 logements de grande urgence. Mais le ministre de la Reconstruction, Maurice Le Maire, avait refusé. Il estimait qu'il y avait un projet plus vaste, qu'il fallait patienter. Voilà. Et donc, une nuit, un jeune ouvrier se présente et il frappe à la porte de l'abbé Pierre. Il vivait dans une carcasse d'autobus. Notre bébé est mort, dit-il. Voilà. Et donc, l'abbé Pierre va, avant même son appel à la radio, publier une lettre ouverte au ministre de la Reconstruction. Et dans, il lui dit: Monsieur le ministre, un petit bébé est mort de froid à Neuilly-Plaisance dans la nuit du 3 au 4 janvier. Pendant votre discours devant la Chambre des députés, où vous refusiez les crédits aux cités d'urgence, l'enterrement a lieu jeudi, 14h. Il serait bon, monsieur le ministre, que vous soyez avec nous. Et effectivement, le ministre va venir, courageusement quand même, hein, mais il va assister, il va suivre le petit cercueil. Hein, voilà, Maurice Le Maire, il sera présent. Et donc, il va s'efforcer d'agir, mais bon, c'est pas facile dans l'urgence, pour ces couches dehors, ce que l'abbé Pierre avait baptisé ainsi, les couches dehors. Et donc il y aura des dévouements qui vont, dès cette lettre ouverte, et dès avant l'énorme insurrection de la bonté, ainsi qualifiée après son appel à la radio, hein, qui aura un retentissement formidable. Par exemple, Madame Larmier, qui est propriétaire de l'hôtel Rochester, un palace, va mettre 12 chambres. C'est des initiatives ponctuelles, mais à la disposition provisoire, à la disposition des sans-abri. Et elle met son hôtel à dire, alors ce sera une vraiment, on le voyait dans le film Hiver 54, une avalanche insoupçonnée, l'hôtel sacrément envahi de dons, de vêtements, etc. Voilà. Et après, ça sera transféré, ça sera l'armée qui le prendra en charge, quoi. Voilà. Et donc, là, c'était, et dès avant cela, ça c'est anecdotique, le 1er février 1954, eh bien, il était connu déjà à l'abbé Pierre, puisqu'il avait participé au jeu quitte ou double à l'époque. Aujourd'hui c'est le jeu des 1000 euros. À l'époque c'était sur Radio Luxembourg, hein, Zappi Marx en 54 ou même en 52, deux ans avant, il avait gagné 250 000 francs. Bien sûr pour ses œuvres et au quitte ou double, et il avait lancé aussi dans le cadre de l'émission un appel à la générosité, hein, voilà, avant cet appel qui fait sa célébrité. C'était un petit peu, il y a eu l'appel de Gaulle, mais en juin 1940, du 18 juin, mais il y a eu aussi un petit peu moindre dans l'histoire, mais ô combien émouvant, cet appel de l'abbé Pierre, 1er février 54, dont on célébrera l'anniversaire. Eh bien, je crois que je vais vous quitter. Eh bien, on se retrouve mardi. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.